RFI.
Alors, on dit quoi ?
Salam, salam, c'est Diara. Je suis au micro de RFI pour un nouveau numéro d'Alors on dit quoi ? Émission qui aujourd'hui s'intéresse aux jeunes entrepreneurs agricoles. Nous verrons que pour certains, l'agriculture a une mauvaise image et ne constitue pas une option de carrière. Pour d'autres, au contraire, c'est une activité dont le potentiel pourrait constituer un nouvel Eldorado. Qu'est-ce qui motive ces jeunes à tenter le retour à la terre ? Quelles sont les difficultés rencontrées ? Vivent-ils décemment grâce à l'agriculture ? Et surtout, comment envisagent-ils l'avenir de l'agriculture en Afrique ? Rencontre avec ceux qui ont tenté l'aventure dans quelques instants. Au programme également, focus sur un portail web voué à la promotion de l'agriculture en Afrique. De nombreux jeunes Africains ne sont pas attirés par ce secteur en raison de sa précarité et de son manque de compétitivité. L'une des missions d'Agribusiness TV est de montrer que l'on peut innover dans ce domaine et qu'un jeune peut en vivre. Son fondateur, Inoussa Maïga, participe justement à Alors on dit quoi ? Et enfin, je ne déroge pas à la règle avec vos chroniqueurs préférés qui sont là pour démonter une fake news, vous apporter des conseils pour améliorer votre quotidien et bien sûr, un petit mot sur un événement culturel qui a lieu sur le continent. Angata, c'est parti.
Alors, on dit quoi ? Avec Diara Ndiaye.
Cap donc sur un secteur économique vital, l'agriculture, concernée directement ou indirectement par la plupart des objectifs du développement durable fixés par l'ONU à l'horizon 2030. L'agriculture devrait davantage mobiliser les États et les bailleurs aussi bien dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. L'entrepreneuriat agricole a notamment un fort potentiel. C'est ce que nous allons voir avec nos invités du jour. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Vous êtes cofondatrice de Saelia, une entreprise importatrice de fruits et plantes biologiques en provenance d'Afrique de l'Ouest. Ambre Delpierre, votre acolyte et cofondatrice de Saelia, est aussi avec nous. Bonjour Ambre.
Bonjour.
Et enfin, bonjour à Serge, qui est le président de Mills Partenaires, une entreprise agricole innovante en République démocratique du Congo.
Bonjour.
Les présentations sont faites direction le Niger à la rencontre de jeunes qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Très connectés, ils ont très vite compris qu'un meilleur accès aux technologies, aux innovations et aux connaissances appliquées à l'agriculture peuvent accélérer la transformation de ce secteur. Reportage de Bouli, notre correspondante au Niger.
Au Niger, cette chanson diffusée en spot sur les médias appelle les jeunes à s'intéresser à l'agriculture. Cet appel semble être entendu par ces derniers qui sont conscients de l'importance de l'agriculture pour le pays.
Nous, les jeunes Nigériens, on ne regarde pas les ressources minières. C'est pas pour dire qu'on n'a pas besoin. Mais en réalité, nous, les potentialités que nous en avons de terre et de l'eau, nous pensons que si on combine ces deux facteurs avec la main-d'œuvre, la force, les bras valides qu'on en a, on peut vraiment créer des richesses énormes.
De nombreux jeunes ont des ambitions agricoles. Preuve en est avec le Centre africain d'agrobusiness situé dans un quartier de la périphérie de Niamey. Ici, on cultive des arbres fruitiers et des produits maraîchers avec une technique d'irrigation moderne dénommée FAM. Chibka Moussa, 30 ans, qu'on appelle aussi le malade de l'agriculture et l'initiateur du projet.
Et ce centre a eu à réfléchir et parvenu sur un modèle d'exploitation qu'on appelle FAM, la ferme africaine moderne. Donc la ferme africaine moderne aujourd'hui a un socle. Il est basé effectivement sur un système d'irrigation qui s'appelle système d'irrigation Hadari. Hadari, c'est un nom, un jargon nigérien qui veut dire pluie. Quand vous installez le tuyau Hadari, là, vous avez vu, on prend au bon milieu, on met des arbustes fruitiers. On peut mettre des papayers, on peut mettre des goyaviers, tout ce qui est arbre, un petit arbre qui donne des fruits. Et sur chaque 12 mètres à 15 mètres, on met un arbre fruitier. Ce qui fait qu'à l'hectare, sur le modèle FAM, on a 666 arbustes fruitiers. Et on a 66 arbres fruitiers.
Avec cette technique, Chibka Moussa essaye aussi de surmonter les effets du changement climatique dans les 80 hectares de terre qu'il exploite à travers le pays.
Les saisons pluviales sur lesquelles nous misions auparavant, elles sont en train d'être perturbées de manière vraiment très drastique. Au vu des besoins alimentaires de la population qui ne fait que grandir, on a dit qu'on ne peut pas aller sur la base de la production pluviale. Il faut changer de technique pour aller à une agriculture durable, intelligente face au climat.
Ce projet lui permet aussi de générer des millions de francs CFA par saison.
En moyenne à l'hectare et à partir du troisième mois, chaque mois, on a eu à réaliser un chiffre d'affaires de plus de 2,5 millions à l'hectare.
À 105 km au sud-est de Niamey, dans le village de Koptitanda, un groupement composé de 15 jeunes exploite un périmètre de 40 hectares. Ils produisent des céréales très prisées au Niger, comme le mil, le maïs, le sorgho, les riz. Abbas Doua en est le président.
La première année, nous sommes partis avec presque 7 variétés, histoire d'essayer la fertilité du sol et tout ça, avec la pluie qui est souvent très mal répartie dans le temps et dans l'espace, ou souvent l'arrêt brut et brutal de la pluie, sachant bien que nous ne sommes pas encore à la récolte. Donc ceci constitue un très grand danger pour les producteurs que nous sommes.
Au Niger, plus de la moitié du pays est désertique. Ce groupement a trouvé la solution pour pallier au problème en optant pour des semences améliorées.
Avec les semences améliorées, la période est assez courte. Au lieu d'utiliser un mil de 90 jours, vous avez maintenant, avec les semences améliorées, des semences de 70 jours, de 65 jours.
Impliquer les jeunes de l'agriculture, c'est aussi le combat de plusieurs organismes. À l'instar de l'Institut international de l'agriculture tropicale, piloté au Niger par Abdoulaye Tahirou. Son combat, utiliser les technologies intelligentes face au climat et promouvoir l'entrepreneuriat agricole des jeunes.
Ce que nous essayons de faire, c'est d'abord cibler et des jeunes ruraux, mais aussi des jeunes urbains. Énormément de jeunes diplômés qui n'arrivent pas à se retrouver. Et il y a des jeunes qui pensent que, parce que j'ai fait un diplôme en géographie, je ne peux pas diriger une entreprise d'agriculture. Une entreprise, c'est une entreprise. L'agriculture, ce n'est qu'une activité parmi tant d'autres qu'une entreprise peut faire. Donc, ces genres de jeunes sont les jeunes que nous voulons aider à comprendre d'abord c'est quoi l'agriculture.
L'agriculture constitue la première mamelle de l'économie nigérienne. Elle se pratique pour l'essentiel pendant la saison des pluies. Des saisons perturbées depuis des années par le changement climatique, la principale conséquence reste le déficit alimentaire. Face à cette situation et au vu des besoins des populations, la jeune génération d'agriculteurs nigériens fait, elle, le choix d'une agriculture durable et innovante.
Une agriculture innovante, c'est possible et c'est même déjà le cas dans plusieurs pays africains. Lucie, qu'avez-vous retenu de ce reportage ?
Que les jeunes essayaient de se regrouper autour de nouvelles façons de mieux cultiver les produits, de mieux utiliser les ressources qu'ils ont dans le pays. Par exemple, utiliser la pluie quand elle est là et la réutiliser quand elle n'est pas là avec des nouvelles techniques d'irrigation. Que les changements climatiques les freinaient beaucoup. Et c'est ce qu'on a vu aussi au Burkina cette année avec les mangues. Il y a eu un mois et demi de retard sur la saison. Donc ça engendre des problèmes pour toute la filière. Et donc il faut trouver des nouvelles techniques pour avoir des meilleures ressources.
Et vous, de votre côté, Ambre, qu'avez-vous remarqué d'intéressant dans ce reportage ?
Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est comment justement essayer d'intéresser la jeunesse à l'agriculture. Précisément aussi à l'agriculture, peut-être à l'agroécologie, une agriculture qui préserve les ressources naturelles de leur pays.
Et vous, Serge, que pensez-vous de ce reportage ? Qu'est-ce qui vous a marqué ?
C'est excellent parce que finalement, on se rend compte que même dans des pays où on penserait qu'il y aurait une difficulté à mettre en place une activité, il y a de nombreux jeunes en fait qui ont cette capacité à innover. On l'a vu avec les différentes techniques qui sont mises en place, mais aussi à se projeter et se dire que finalement c'est possible, même si on a certaines difficultés liées par exemple au changement climatique, et bien on peut mettre en place une activité agricole et avoir un retour sur investissement. Et ça, c'est très intéressant.
Mmh. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que malgré les défis et la mauvaise image de l'agriculture des jeunes, 80% de la population active sur le continent africain travaille d'ailleurs dans le domaine agricole. Qu'est-ce qui vous a motivé, Serge, à vous lancer ?
Bah, en fait, c'est un constat. Mon père était dans l'agriculture et en allant en RDC, je me suis rendu compte de l'opportunité qu'il y avait. Et après, en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que la RDC comptait 80 millions de kilomètres carrés de terres arables. Seulement 10% étaient exploités. On a un réseau hydrographique de 4700 kilomètres de débit. donc un fleuve avec tous les cours d'eau à profusion. Et j'ai été très étonné de voir que 70% de la population vivait sous le seuil de la pauvreté, dont 40% souffraient de cas de malnutrition et qui touchaient essentiellement les enfants. Donc je me suis dit, c'est pas possible d'avoir un si beau pays avec de tels moyens, de telles ressources, et de ne pas être en capacité de finalement donner l'accès aux denrées alimentaires de base. Donc je me suis dit, banco, on va essayer, puis on va voir ce que ça va donner.
Mmh. Et vous avez essayé, alors par le biais de quel projet? Il me semble que vous avez bien mûri le projet avant de vous y mettre. Et quelles sont les missions de Meals Partner?
En fait, j'ai d'abord commencé par un projet pilote en 2017 sur 1,5 hectare. C'était sur les cultures maraîchères. Donc j'ai fait de l'aubergine, du piment, du poivron, tomate, gombo. Mmh. En fait, l'idée, c'était d'appréhender finalement un petit peu le marché, d'avoir les écueils pour voir un petit peu comment ça fonctionnait, mettre en place une équipe qui soit compétente. Et donc du coup, sur le projet, avec un investissement qui était de l'ordre de $5,000, j'ai réussi à récupérer mon capital et à faire un bénéfice qui était assez conséquent. Donc je me suis dit, ok, banco, donc on va s'y mettre. Et donc j'ai créé ma structure en septembre 2018. Et là, je me suis mis sur la culture vivrière avec le manioc, patates douces, l'ananas, banane plantain, les haricots, et sur une dizaine d'hectares.
Et donc une commercialisation en République démocratique du Congo. Et Serge, on a vu dans le reportage, par exemple, que Moussa utilisait une ferme moderne avec un système d'irrigation qui s'appelle Adari pour la pluie. C'est ce type d'outil que vous utilisez?
Ah, complètement. Parce que l'idée pour moi, c'était de pouvoir, parce que l'agriculture est quand même une science. Donc, il faut s'entourer de personnes compétentes, des professionnels. Donc, j'ai un partenaire technique qui s'appelle AgroProject, avec qui a mis en place justement tout ce système et qui nous permet d'avoir une rentabilité qui soit à la mesure de notre investissement.
Parce que vous avez fait des études pas du tout dans l'agronomie.
Pas du tout, justement, pas du tout.
Serge, vous dites souvent, alors, travaille la terre et l'or te reviendra.
Oui.
Moussa gagne un peu plus de 2 millions de francs CFA par mois par hectare, il y a une trentaine d'hectares quand même. Est-ce que vous arrivez à vivre décemment de votre activité?
En fait, c'est paradoxal parce que, comme c'est un projet qui est relativement global, j'ai mûri le projet pendant quelques années, une dizaine d'années, donc j'ai mis mes économies en jeu là-dessus, et l'idée c'était vraiment mettre une activité en place, mais permettre aux villages qui sont aux alentours de mon exploitation de pouvoir créer finalement de l'emploi et permettre aussi à ces villages d'avoir accès donc aux denrées alimentaires de base, mais leur permettre aussi de mettre, on va dire, des moyens qui permettent de soigner les enfants, de participer finalement à cet essor économique et par la suite espérer après avoir un retour sur investissement. Mais pour moi, je suis déjà gagnant parce que je vois déjà ce qui est fait, je vois ce que j'apporte. Donc je me dis, banco, j'ai réussi quand même ma petite mission.
Une belle mission que d'autres aussi ont tenté, comme les filles qui sont avec moi, Lucille et Ambre. Alors vous vous êtes lancée dans une aventure qui a débuté en 2017, c'est très récent. Comment est née Saélia, Ambre?
On a créé Saélia avec Lucie suite à un an de service civique au Burkina Faso. Et c'est parti d'un premier constat. En fait, on cherchait à manger des produits locaux du maraîchage qui soient sains, qui soient cultivés dans les règles de l'agriculture biologique. Et c'était assez compliqué finalement d'en trouver parce que l'agriculture périurbaine, mine de rien, est très polluée de par la pollution des eaux de surface, de par l'utilisation d'intrants chimiques. Et on a cherché un petit peu autour de nous à connaître les différents producteurs qui étaient vraiment engagés dans l'agriculture biologique. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient beaucoup de mal à se développer, à trouver des débouchés à leurs produits, à valoriser leurs produits. Et c'est à partir de là, on s'est dit, on pourrait essayer de créer une structure qui fasse le lien vraiment entre ces producteurs engagés et des entreprises françaises ou européennes qui souhaitent avoir accès à des produits biologiques.
Parce que vous, l'idée, c'est de produire donc au Burkina Faso et d'importer ces produits.
On s'appuie sur des groupements donc qui ont déjà des savoir-faire, qui sont certifiés biologiques. Et nous, on permet de faire le lien entre les acheteurs français qui sont en recherche de produits bio et avec une traçabilité vraiment courte, donc un seul intermédiaire qui est Saélia. Et donc avec les bénéfices de Saélia, on veut réinvestir, créer un fonds et réinvestir dans des projets pour sensibiliser à l'agriculture bio, au maraîchage, à l'agroécologie.
Mmh. Pourquoi le choix du Burkina? Vous êtes française et vous, sénégalaise, franco-sénégalaise. Mmh. Alors pourquoi le choix de ce pays?
C'était un petit peu le hasard de notre rencontre au départ.
Retrouvé.
C'était pas un choix dès le départ, mais après maintenant on travaille aussi avec le Togo, prochainement la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Donc c'est vraiment dans une optique...
On parle d'Afrique de l'Ouest voilà. pour l'instant.
Oui, d'aller chercher les produits là où ils sont les meilleurs. La D'accord. mangue, c'est le Burkina. L'ananas au Togo, il est génial. C'est vraiment les terroirs de chaque produit qui nous
D'accord.
intéresse.
Et on a le sentiment que le bio, c'est tendance, en tout cas ici en France. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, une agriculture saine, une agriculture propre. Comment reconnaître un réel produit bio? Vous avez fait ce choix parce que, bon, faut le dire, ça rapporte aussi plus financièrement, peut-être?
Oui, puis ça protège aussi beaucoup les écosystèmes. Les personnes qui utilisent les intrants là-bas ne se protègent pas, n'ont pas la formation. Donc, c'est vraiment... plus respectueux de l'environnement, des producteurs et des consommateurs finaux. Et c'est pour ça qu'on a fait ce choix. Et pour nous, il est juste logique, quoi. On ne s'est pas posé la question.
On parle de fruits bio, d'ananas pour le coup. Enfin, j'ai entendu parler d'ananas, de mangue. Quelles sont leurs particularités, du coup?
Nous, on travaille sur des variétés anciennes, pas hybrides, donc pas d'OGM, vraiment des anciennes variétés qui ont beaucoup plus de goût et qui rapportent aussi beaucoup plus aux producteurs. Puisqu'un ananas, par exemple, ça met 2 ans à pousser, donc il faut que la valeur, elle soit apportée au bon endroit, donc aux producteurs, pour nous, c'est le plus important.
Alors, on dit quoi? Avec Diarra Ndiaye.
Vous écoutez, alors on dit quoi sur RFI? On parle d'entrepreneuriat agricole avec Lucie, Ambre et Serge. Tous les trois ont des activités agricoles sur le continent et nous rejoignons de suite Marietou qui nous appelle du Mali. Bonjour Marietou.
Bonjour.
Marietou, vous êtes fondatrice de l'entreprise Kenea. Vous vous êtes lancée aussi dans l'agriculture bio, comme nos deux intervenantes ici. Est-ce difficile de convaincre les jeunes agriculteurs de faire du bio au Mali?
Au début, ça a été un peu difficile parce que le terme bio, ça demande du temps. Ça demande de l'investissement de soi. Et puis, pour les agriculteurs qui sont habitués à travailler avec des produits chimiques, font plus de rentabilité et puis les produits poussent plus vite. Mais avec le bio, c'est un peu lent, ça demande de l'investissement, ça demande du don de soi. Donc, au début, ça a été vraiment difficile, mais maintenant... les paysans commencent à mieux s'adapter.
Et parce quels sont les arguments justement qui ont fait peser la balance?
L'argument qui a fait peser la balance, c'est la santé, le domaine de la santé. Les produits, les 100% bio, sont les produits qui préservent mieux la santé que les produits avec des produits chimiques. Puisqu'on a constaté que les produits avaient à base de produits chimiques et de pesticides sont à base de plusieurs maladies non transmissibles, comme le cancer, l'insuffisance rénale et puis les maladies non transmissibles qui sont de plus en plus, qui apparaissent de plus en plus.
Marietou, quels sont vos produits phares aujourd'hui au Mali?
Les produits phares au Mali aujourd'hui, ce sont les infusions. Je fais des infusions 100% bio certifiées, bio local par ANSD Mali, qui est l'association malienne pour la solidarité et le développement.
Et vous citez l'association justement qu'on va tenter de joindre, Amidou Diawara, qui est le président de cette association malienne pour la solidarité et le développement. Il est en ligne avec nous. Bonjour Amidou.
Bonjour.
Amidou, quelle est justement la première mission de votre association dont vient de parler Marietou?
Alors, l'association malienne est une association qui est basée sur le principe du développement durable. Une initiative qui vise à améliorer la vie au quotidien des populations les plus démunies, favorise la réalisation de tous les projets socio-économiques concourant à une protection de l'environnement et aspirant à une alimentation saine et durable.
Que proposez-vous concrètement, Amidou?
Alors, et notre association a mis en place un système participatif de garantie qu'on appelle la certification bio locale, qui est une alternative aux méthodes de certification classiques, qui a pour objectif de garantir les produits agricoles bio avec un cahier des charges qui a été élaboré auquel les producteurs s'engagent à respecter sur toute la chaîne de valeur de la production des semences jusqu'à la commercialisation.
Merci beaucoup Amidou pour votre participation et à bientôt. On n'a pas encore parlé des problématiques que rencontrent les entrepreneurs. Alors oui, je vous vois réagir, Serge. L'entrepreneuriat, ça peut paraître sexy comme ça, on est un peu indépendant. Mais en vrai, les entrepreneurs ne dorment pas. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez principalement, Serge?
Les difficultés, d'abord, ça va être le matériel agricole qui demande un gros investissement, à savoir tracteur, camion. Alors, la RDC est sur l'équateur, donc on a deux saisons, la saison sèche et la saison pluvieuse. Donc du coup, tout le monde va produire en même temps. Donc quand vous voulez louer un tracteur, vous le réservez, vous payez, mais la personne peut au dernier moment dire bah, finalement j'ai été voir quelqu'un d'autre parce que bon il m'a payé la totalité de la somme, donc vous attendez. Et donc du coup voilà, votre projet est mis un petit peu en stand-by parce que les gens ne respectent pas les engagements. Après, sans compter les banques.
Oui, les difficultés financières.
Les difficultés financières, absolument.
C'est dans tous les domaines, même au-delà de l'agriculture.
Voilà, c'est atroce. Et on peut même pas parler de crédit. Et puis, il y a tellement de choses, finalement. Il faut d'abord faire ses preuves. Il faut d'abord avoir une expertise qui soit dans la durée, dans le temps. Et après, peut-être que là, on est pris au sérieux. Mais au départ, on n'est pas considéré. Surtout l'agriculture n'est pas très sexy. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué.
Eh bien, on parle de départ, justement. Lucie, vous avez démarré ça il y a à peine un an, enfin deux ans, 2017. Les difficultés dont parle Serge, vous reconnaissez aussi dans ces difficultés? Vous en avez d'autres?
Nous, on a eu de la chance d'avoir eu accès à des prêts d'honneur. Mm-hmm. Donc, qui nous ont bien aidés au niveau trésorerie. Je pense que notre plus grande difficulté, c'est le changement climatique et du coup la qualité des fruits qui est un peu variable, les saisons qui changent, les problèmes à l'intérieur des fruits. C'est plutôt voilà le changement climatique qui nous affecte.
Et comment vous avez su rebondir à ces difficultés-là?
C'est compliqué, il faut s'adapter très rapidement. Comme l'a très bien dit Serge, l'agriculture, c'est vrai que c'est une science. Et avoir accès à l'information, la bonne information, la transmettre et apprendre aussi avec les producteurs ensemble sur comment cultiver au mieux certains produits, ça prend du temps et ça demande d'être endurant, mais c'est surmontable.
Alors, avec toutes les difficultés qu'on vient d'aborder à l'instant, croyez-vous que les jeunes entrepreneurs agricoles peuvent relever le défi de l'autosuffisance alimentaire? Parce que la question, elle est là aussi. Il faut alimenter toutes ces populations grandissantes, notamment sur le continent africain. Pourtant, quand on sait que la majeure partie des produits que les Africains consomment sont importés, est-ce que vous pensez que ce défi est relevable, Serge?
Ah oui, assurément. Sinon, on serait pas là, je pense. Donc, effectivement, bon, l'idée, bien sûr, c'est sensibiliser les jeunes, parce que on sait que en Afrique, en termes de travail, on a de nombreux jeunes qui cherchent à travailler, mais certains préfèrent être portés vers des métiers où ils sont plus en vue, alors que l'agriculture, comme on l'a dit, est vraiment porteur et peut relever ce défi. Je le disais tout à l'heure, 80 millions de kilomètres carrés de terres arables, c'est considérable.
Donc vous incitez vos proches, vos amis à venir investir au Congo?
Complètement. Donc j'associe ma famille, les tantes, les oncles, tout le monde pour justement porter leur attention sur l'agriculture. C'est vraiment la base. En plus, c'est le fondement même. Je pense qu'on peut pas vivre sans l'agriculture. C'est juste pas possible.
Vous partagez ce point de vue, Lucie?
Oui, tout à fait. On fait partie d'une association qui s'appelle Ingalan et qui œuvre justement pour la souveraineté alimentaire au Burkina Faso. Et je pense vraiment, en construisant des filières, que l'agriculture, elle peut être totalement autosuffisante au Burkina sur le riz, sur tout le maraîchage. Il y a vraiment de l'espoir dans ce secteur.
Ambre, quel conseil vous donneriez aux jeunes qui veulent réussir dans l'entrepreneuriat agricole?
Je leur conseillerais de se tourner vers la transformation, parce que c'est souvent aussi un peu le parent pauvre de l'agriculture en Afrique. Il est important de produire et de savoir bien produire, mais l'étape 2, c'est de savoir transformer et bien stocker les productions pour justement atteindre après cette souveraineté alimentaire dont on a parlé.
Un conseil à ajouter, Serge?
Oui, être persévérant, parce que quand on entreprend, on a une idée précise, on se dit voilà, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, et puis ça se passe jamais comme on l'a imaginé. Donc du coup, faut s'adapter et puis surtout pas baisser les bras. Si on a vraiment une idée précise, généralement la persévérance finit par payer.
Le mot de la fin, Lucie.
Eh ben, on espère que tout va se passer comme vous le voulez et comme on le veut aussi.
Merci en tout cas pour votre participation à tous les trois. Merci Lucille Paris, je rappelle que vous êtes cofondatrice de Sahelia, une entreprise importatrice de fruits et plantes biologiques en provenance d'Afrique de l'Ouest. Merci également à vous, Ambre Delpierre, vous êtes la partenaire justement de Lucille et cofondatrice de Sahelia. Et enfin, merci à vous, Serge, président de Mills Partenaires, une entreprise agricole innovante en République démocratique du Congo.
Merci.
Merci.
Alors, on dit quoi? Diaran Djaï.
Et samedi prochain, ne ratez pas votre émission « Alors on dit quoi ?» sur RFI. Nous parlerons des fratries, aînés, cadets, Benjamin. Notre rang dans la famille est-il déterminant pour notre avenir ? Plusieurs facteurs entrent en jeu dans le façonnement de notre caractère et personnalité, mais il semblerait que la place dans la fratrie y contribue plus qu'on ne le croit. Alors dites-nous comment s'organise votre fratrie et parlez-nous des relations que vous entretenez avec vos frères et sœurs. Si vous souhaitez participer à cette émission et apporter votre témoignage, n'hésitez pas à nous contacter. Place à notre première pause musicale avec Azaya featuring Yemi Alade, Tu me rends dingue.
I'm crazy in love with you, suis amoureux de toi. I'm crazy in love with you, suis amoureux de toi. I'm crazy in love with you, suis amoureux de toi. I'm crazy in love with you, suis amoureux de toi.
Pourquoi t'es si belle comme ça? Baby girl, tu me rends dingue. Pourquoi t'es si jolie comme ça? Pretty girl, tu me rends dingue.
De Azaya featuring Yemi Alade.
Alors on dit quoi?
Je vous propose maintenant de découvrir une initiative qui m'a particulièrement plu. Il s'agit d'Agribusiness TV, une web TV fondée par un Burkinabé qui fait la promotion des talents des jeunes Africains, des jeunes agriculteurs africains. Alors on dit quoi reçoit justement son fondateur Inoussa Maïga. Bonjour Inoussa.
Bonjour.
Votre télévision sur Internet est consacrée exclusivement aux activités agricoles et au monde rural africain. Alors, pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce gros challenge?
Alors, merci. C'est une histoire qui commence surtout par une série de constats. Le fait que, principalement, on constate que beaucoup de jeunes ont une mauvaise image du secteur agricole en Afrique, alors que c'était le secteur qui offrait le plus d'opportunités, paradoxalement. Donc nous avons voulu créer cette web télé justement pour mettre en lumière les opportunités dans le secteur, mais aussi pour montrer les nouvelles applications des métiers d'agriculture, et cela à travers des innovations, des initiatives d'autres jeunes qui osent donc s'engager dans le secteur.
Votre slogan, voir, c'est croire. Comment décrire la ligne éditoriale d'Agribusiness TV?
Alors, la ligne est clairement, je pense que ce slogan porte entièrement la ligne éditoriale qui est que on constate que surtout beaucoup au niveau de la jeunesse, on a plus tendance à croire à ce que l'on voit. Et on s'est dit que le meilleur moyen pour justement convaincre les jeunes qui avaient des choses à faire dans le secteur agricole, c'était de les montrer. Donc, les montrer à travers des vidéos qu'on tourne sur des parcours individuels ou collectifs d'autres jeunes, qui ont commencé vraiment à un niveau très bas, sans grand moyen. Parce que l'une des excuses justement de la jeunesse, c'est tout le temps de dire, on a des idées de projet, mais on n'a pas de soutien, on n'a pas de moyens. Nous, on cherche un peu à montrer des jeunes qui ont commencé avec très peu de moyens et qui arrivent à réaliser des choses vraiment intéressantes dans le secteur agricole.
J'ai regardé justement le reportage sur la transformatrice de Kumasi, un reportage très intéressant sur la transformation, une dame qui fait tout simplement des purées d'épices. Vous mettez en avant des parcours individuels. Est-ce qu'il y a un parcours qui vous a particulièrement marqué?
c'est difficile. Il y en a tellement parce qu'aujourd'hui, on compte plus de 150 profils qu'on a pu donc mettre en lumière. On a plusieurs exemples dont on est fier. Si on parle un peu de Axel Emmanuel de la Côte d'Ivoire, qui est ce jeune affluent chocolatier, qui n'est plus à présenter, qui fait le tour du monde, a été un peu parmi les premiers à le révéler. Et c'est une fierté. On a plein d'exemples de jeunes qui sont vraiment innovants. Vous avez parlé de cette demi-moi. C'est justement des gens qui, au départ, s'engagent parce qu'ils ont vu un problème quelque part qu'ils veulent résoudre. Donc, cette dame qui constate en fait le fait qu'il y a des produits agricoles qui sont périssables et qui périssent sur la place du marché parce que justement, on a des périodes où il y a surproduction et donc des périodes où ces produits sont totalement absents du marché. Trouver une solution qui permette donc de rendre ces produits disponibles sous une autre forme tout au long de l'année a été une initiative payante pour elle. Aujourd'hui, elle emploie plusieurs personnes et nous, on essaie de parler de ces cas, de ces exemples-là.
Absolument un beau modèle de réussite. Mais vous avez fait des études de communication à l'université de Ouagadougou. Comment l'agriculture est entrée dans votre vie? Pourquoi ce secteur vous intéresse particulièrement, Inoussa?
Alors, personnellement, je viens d'une famille d'agro-pasteurs, donc c'est une réalité que je connaissais. Mais par la suite aussi, en tant que journaliste, c'était le sujet sur lequel je me sentais le plus utile. J'ai l'habitude de dire que si tout de suite je me lève, je pars dans une localité, je vais rencontrer un agriculteur, il va me recevoir sans protocole. Et si, à l'opposé, si je vais rencontrer un ministre pour une interview, il va falloir déposer une demande d'interview, attendre plusieurs semaines parfois. Et donc, c'est carrément aussi l'accessibilité des acteurs et aussi le fait de voir que quand on parle de ces sujets, on parle de ce qui concerne en fait 80% de la population de notre pays. Parce que l'agriculture occupe justement ce pourcentage de population. Je pensais que j'allais pouvoir avoir le plus d'impact en m'intéressant sur ces questions-là. Et après, c'était aussi un moyen pour moi de me distinguer quand on sait que beaucoup de collègues journalistes s'intéressent principalement à ce qui se passe dans la vie urbaine, ce qui se passe dans le camp politique.
Une dernière question, Inoussa, peut-être aujourd'hui, dans Alors on dit quoi, on a choisi de parler de l'entrepreneuriat agricole des jeunes. Que pouvez-vous dire à ce sujet pour le cas du Burkina Faso? Que faut-il retenir?
Alors, l'entrepreneuriat, c'est absolument quelque chose à promouvoir, à encourager. L'entrepreneuriat, ça va être quelque chose aussi qui est un choix personnel. On ne peut pas pousser quelqu'un à entreprendre s'il n'a jamais eu cela comme choix de carrière ou de vie, parce que c'est complètement cela. Et après, voilà, il y a encore des initiatives, c'est ça, si on regarde un peu au niveau de la région, en Afrique de l'Est, au Burkina, ou au Bénin, on voit en fait des initiatives qui sont toutes intéressantes, mais ce qu'on observe qui est, à mon niveau, qui peut être un peu le c'est le manque de soutien à certains niveaux pour mettre à l'échelle les initiatives des jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec sur fond propre, avec peu de moyens, on peut commencer. Et c'est d'ailleurs souhaitable de commencer de cette façon. Mais on arrive toujours à un certain niveau où on est plus petit, on n'est pas grand. Et donc, tous, on a besoin à ce moment-là d'avoir donc un certain appui pour mettre à l'échelle son activité, pour la faire grandir, employer beaucoup plus de personnes. Et c'est là où on peut regretter le fait que ça coince. Les choix qui sont faits au niveau politique ont toujours tendance à accompagner de nouvelles personnes qui commencent à gérer, à améliorer ceux qui ont commencé par eux, mais qui n'arrivent pas à grandir justement parce qu'ils n'ont pas le soutien conséquent dans ce sens.
Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Inoussa, je rappelle donc que vous êtes le fondateur d'Agri Business TV, une télévision sur Internet consacrée exclusivement aux activités agricoles.
Alors on dit quoi ?
Alors on dit quoi ? Je vous le dis souvent, c'est une émission qui donne la parole aux jeunes. Cette semaine, Nadine de Queen Adassa a pris le micro pour vous faire passer un message au sujet justement de l'entrepreneuriat dont on parle depuis le début d'Alors on dit quoi ? On l'écoute.
Bonjour à tous, je m'appelle Nadine, je suis congolaise RDC et créatrice de la marque de vêtements Queen Adassa. Je viens aujourd'hui pour vous parler de l'Afrique qui gagne, l'Afrique qui veut se lever, l'Afrique qui veut entreprendre, l'Afrique qui veut être libre, l'Afrique qui veut montrer ses talents. Mon message pour la jeunesse d'aujourd'hui, malgré ce qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, ce qu'on peut voir, la discrimination, les limitations, les barrières, de ne pas hésiter, de se lever et d'entreprendre et de montrer ses talents, de montrer de quoi il est capable et surtout très important d'être unis et solidaires. Et d'avancer vraiment malgré les portes qui peuvent se fermer, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer devant nous, mais de ne pas hésiter, même si on tombe, même si on est refusé quelque part, mais de se lever quand même et de montrer qu'on est capable d'avancer, qu'on est capable d'entreprendre, qu'on est capable de construire. Et à nos aînés, c'est d'être unis, de nous montrer le chemin, de soutenir la jeunesse qui veut entreprendre, la jeunesse qui veut construire, la jeunesse qui veut bâtir, mais que les aînés soient derrière la jeunesse et les aînés nous poussent à avancer et à aller encore de l'avant. C'est ça l'Afrique qui gagne pour moi. L'Afrique qui gagne pour moi, c'est l'Afrique qui est unie. L'Afrique qui gagne pour moi, c'est l'Afrique qui est libre. L'Afrique qui gagne pour moi, c'est l'Afrique qui montre ses talents, qui va de l'avant malgré les difficultés, qui se lève et qui bâtit, qui construit, qui montre de quoi il est capable. Voilà pour moi l'Afrique qui gagne. Que Dieu vous bénisse abondamment et passez une excellente journée. Queen Adassa.
Et vous aussi, vous pouvez amorcer des changements à votre niveau, tout comme le suggère Nadine, en nous laissant, par exemple, un message sur le compte WhatsApp d'Alors on dit quoi. Présentez-vous avec votre nom et prénom. Adressez ensuite votre message à la jeunesse africaine.
Appelle-nous sur WhatsApp au 33 647 740 742.
Alors, on dit quoi ? Dit stop aux infox qui circulent partout sur Internet. Dans cette émission, on vous propose de vérifier des faits consacrés à l'Afrique en collaboration avec l'école de journalisme EJICOM à Dakar et le site de vérification des fausses nouvelles AfrikaTech. Bonjour Valdez.
Bonjour Diarra.
Valdez, au Sénégal, plusieurs médias ont récemment affirmé que le Sénégalais Luc André Diouf, qui vient d'être élu au Parlement espagnol, est le premier député noir de l'histoire en Espagne. Est-ce vrai ?
Je vous réponds, Diarra, par la négative. Luc André Diouf n'est pas le premier noir à être élu dans l'hémicycle espagnol. Luc André Diouf est un Espagnol d'origine sénégalaise qui vit en Espagne à Las Palmas de Gran Canaria depuis près de 30 ans. Il y est devenu une personnalité influente dans le mouvement syndical.
Du coup, ma prochaine question, vous la connaissez, Valdez. Qui est donc le premier ou la première députée noire d'Espagne ?
Eh bien, Diarra, vous aurez dû vous en tenir à la version féminine, car c'est bien une femme qui est considérée comme étant précisément la première députée noire du Congrès espagnol depuis 1968. Il s'agit de Rita Bosa Ogori, une quinquagénaire d'origine équato-guinéenne qui avait fait son entrée au Parlement espagnol en janvier 2016.
Valdez, une chose attire mon attention. Vous dites que Rita Bosa Ogori est la première députée noire au Congrès espagnol depuis 1968. Y a-t-il donc eu des députés noirs en Espagne avant 1968 ?
Alors, je ne sais pas s'il y en a eu plusieurs, mais nous savons que l'oncle de Rita Bosa Ogori, qui s'appelait Enrique Gori Molubela, a activement participé à ce qu'on appelait les Cortes espagnoles, une assemblée exerçant un contrôle parlementaire sur le gouvernement espagnol. Il était donc, pour faire simple, un député. C'était entre 1964 et 1968, à l'époque où la Guinée équatoriale était encore une colonie espagnole. Il sera ensuite président de la commission du gouvernement autonome de Guinée équatoriale, qui a géré la transition vers l'indépendance du pays, obtenue en 1968. Enrique Gori Molubela est d'ailleurs présenté comme un proche de l'ancien dictateur Francisco Franco.
Merci Valdez pour ces précisions. Retrouvons-nous la semaine prochaine.
Merci Diarra.
Place à présent à Mohamed Sissi, connu sous le nom de PSP, journaliste et rappeur. Je vous propose d'écouter son troisième opus de sa série rap dénommée Old School Freestyle, où il y livre un message d'espoir à la jeunesse.
Coucou, Djarandjaï et tous les chers auditeurs et auditrices qui sont à l'écoute de la radio RFI en ce moment. C'est Mohamed Sissi, connu sous le nom PSP. Pap Son Son Big, artiste rappeur signé au label DCMD et journaliste à la web TV kunafoni.com où je fais le journal et débat rapide. Le son que vous allez écouter est le troisième épisode de ma série rap dénommée Old School Freestyle qui sera bientôt dans les bacs et sur le marché du streaming. J'ai jamais vu dans le rap malien. Okay. Dans ce son, je parle de tous les problèmes actuels qui se passent au Mali ainsi que dans le monde entier. Une jeunesse qui n'a d'autre souci que de se droguer et ceux qui rêvent toujours de l'Eldorado, la violence conjugale et les cas de viol. Bon, le système éducatif malien et la guerre entre les différentes ethnies actuellement au pays, comme les Peuls, Dogon, Dosso, etc., vous voyez. Bon, je me demande si c'est la fin du monde ou si l'homme craint Dieu de nos jours actuellement. Je profite aussi pour faire un appel pour la paix et la stabilité au Mali et dans tous les pays en crise actuellement, sans oublier la communauté musulmane de la Nouvelle-Zélande. Merci, c'est un plaisir pour moi de participer à l'émission. Alors on dit quoi? Merci, très chers auditeurs ou auditrices. À très bientôt. Bye bye. PSB, Pap Son Son Abé. Tia ojoro bena ni mafoka pon kono doro ne bebana mali beka taka chogomi ajoro bena na masolin sodo nyini mali ko bana hina nyoko na bana nyoko deme fana bana fomo teka hine fanta unna tugun cha obana fanta unyere dama fana beka toka nyoko faka e ala na ma hine nyoko na me nyoko faka yolos him e la barbari vagabombe fampe hama kumi hama jami folo la Jakarta tume toka shule sufe na sisa abe shule halik le guantere dere dou beka bi ubali mo wulo donka furu nyoko mo beka toka nyoko ja ate sira ala nye dignité bana wari kumbora machama dame tununa muso furu lombe tena yala jiye nyefe demi seni santa hobe chako nyedon foma dion beka kalanjonke jiye nyefe hanfantan doushi makala wate fendon niye baki soro ika ekoliko bana kulu save heti jom beka nyoko faka vaga bombi brake figa du kono ni maso beri tabi labo jiye kono jen diplomo bala kato koko chika bogo tiki kono ma fama soro dena chau bana che yala kulu kera muso muso bana muso yala kulu kera che tout est à l'envers, la vie c'est l'enfer. Digne Willy Kuma sera game over. Tout est à l'envers, la vie c'est l'enfer. Digne Willy Kuma sera game over. Amana Willy Hama Foko Digne Geleyara. Anga Koke Tao de Yatoni Digne Geleyara. Gedoro me consomme depuis à bas âge. Famille d'eau, éducation c'est du bazar. De te fabonia, à te babonia. Tonton Kumate Wakora Kao Kumate. Ouvre l'humanité. Aya nya foanye, afo baga yama fusa yani hada made nyaye. Fantonga dugu kolo beka nyagami. Iti segi plenye, hibe taga fomi. Jamana minal, mamimbe assassine. Nama wuli kanjo oyo silame ya tunutoy. Nui niniga, kiye almamiye. Kana molo ya afu nyala kiye monperye. Eh, ama komi hama jami. Aya foanye ya, neko hame talami. Tout est à l'enfer, la vie c'est l'enfer. Digne Willy Kuma sera game over. Tout est à l'envers, la vie c'est l'enfer. Digne Willy Kuma sera game over. Ah, old school freestyle. Nama hina nyoko name nyoko faka fou.
Je suis Peul, je suis Dogon, je suis Malien. Je suis Peul, je suis Dogon, je suis
PSB,
Malien.
PSB, Pap, son, son, big.
Big. Oh, y'en a marre. Coup de gueule. Le coup de gueule.
C'est l'heure de mon moment, le coup de gueule de notre émission. Cette semaine, place à celui de Nathan Kaweb. Il nous met en garde sur l'utilisation des réseaux sociaux. Je vous laisse écouter.
Salut à tous. Salut à la très belle jeunesse africaine. Salut à la jeunesse dont la plupart des contrées du monde entier en vie au continent africain. Je voudrais, à travers cette vidéo, donner mon point de vue sur l'usage dont font les jeunes africains de des réseaux sociaux, notamment la plateforme Facebook. J'ai eu à constater que la plupart des jeunes se cachent derrière des noms d'emprunt et par cela traduisent leur peur qu'ils ont à se présenter et pour proférer de manière compulsive des injures vis-à-vis de leurs semblables. Moi, j'aimerais qu'ils s'arrêtent un moment et s'interrogent sur le but de cette manœuvre, le but de cette action. Lorsque vous proférez des injures ou bien vous dites des choses amères à votre semblable, vous ne pouvez susciter en cette personne que de l'amertume aussi. C'est en général ce qui se passe. Donc, sur cette voie-là, on peut estimer que cette démarche est contre-productive. J'aimerais, à mon humble avis, demander aux jeunes de se consacrer à utiliser la plateforme Facebook et les autres à bon escient, parce que Maman Africa, notre cher continent, a besoin de notre soutien, a besoin de notre génie, a besoin qu'on s'étale dans le travail pour que nous en bénéficions tous dans le futur. Parce que le continent africain est encore construit et les mains d'œuvre, c'est bien la jeunesse africaine. C'est pas une autre jeunesse d'un autre pays que ce soit. Déjà qu'il n'y en a pas, comme il y en a tellement en Afrique. Alors, je viens très humblement leur demander de se remettre au travail pour que l'Afrique en bénéficie. Quand je dis l'Afrique doit en bénéficier, il s'agit d'eux et personne d'autre.
Et Nathan n'a pas tort, hein. Facebook et compagnie, c'est bien, notamment pour rester connecté avec nous. Mais plus sérieusement, respectons-nous les uns les autres à travers un écran d'ordinateur. Et si vous aussi, vous souhaitez passer un coup de gueule, eh bien partagez avec nous vos convictions en nous envoyant en vidéo votre coup de gueule que vous pouvez nous adresser, bien sûr, sur notre WhatsApp ou sur notre page Facebook.
Alors, on dit quoi sur RFI ?
Place à la minute d'Anna. Bonjour Anna.
Bonjour Diarra.
Aujourd'hui, on parle de musique.
Absolument Diarra, je vous présente mon coup de cœur musical du moment qui n'est autre que la chanteuse Tyrane Mondeni.
Je viens de loin, je viens de loin. Mon bébé, je viens de loin, mon bébé, je viens de loin. Petit go d'abobo today, elle allait du boisson. Quand on dit qu'il y a Dieu et des dents, c'est pas te dire c'est amusement. Regarde un peu où j'ai grandi, oh.
De qui s'agit-il ?
Amoureuse de la scène, cette chanteuse ivoirienne a commencé en tant que danseuse folklorique dans plusieurs campagnes de danse. De fil en aiguille, la jeune fille passionnée se retrouve dans le monde de la musique en tant que choriste. Et c'est à partir de là qu'elle décide dans les années 2000 de se lancer dans les cabarets d'Abidjan. Repérée quelques années plus tard par le propriétaire d'un cabaret à Cotonou, elle y développera sa carrière pendant 3 ans. Du Nigeria au Togo en passant par le Sénégal, Tyrane visite plusieurs pays d'Afrique afin d'y vivre sa passion. Elle s'installera par la suite au Maroc, où elle y réside depuis plus de 11 ans.
Et du coup, comment définir son univers musical ?
Son influence, la musique américaine, plus particulièrement le gospel. Tyrane se décrit comme une artiste d'afro-soul et de variété urbaine. Sa musique s'adresse à tout le monde. Elle y aborde les sujets de la vie quotidienne, la joie, la tristesse, la famille.
Ça donne envie d'écouter et de découvrir sa voix, Anna.
Sa voix qui, justement, est dotée de ce grain rock qui respire la bonne vieille soul music. Je vous invite donc à découvrir ces 2 singles, Woman et I'm a Hustler, facilement trouvables sur Internet.
Merci beaucoup Anna et à la semaine prochaine.
Au plaisir Diarra.
Bon, le temps passe très vite, alors on dit quoi, c'est déjà terminé. Samedi prochain, place aux fratries. La place que chacun occupe dans la famille est loin d'être anodine et peut même avoir des conséquences à long terme. C'est ce que nous verrons samedi prochain. Et d'ici là, envoyez-nous vos témoignages, dites-nous aussi sur quoi vous avez envie de parler et rappelez-vous, ici, il n'y a pas de tabou. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment. J'y ai mis tout mon amour du continent et de sa jeunesse. Merci bien sûr à toute l'équipe de l'émission, Beverly, Dibril, Mariam et Guillaume. On se retrouve samedi prochain, même heure, même fréquence sur RFI. Salut, Ubnono, Ra Gongol, à bientôt.